Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome GACI, ou calcification artérielle généralisée infantile. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alix Besançon. Docteur Besançon, bonjour.
Bonjour.
Docteur Besançon, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier au sein du service d'endocrinologie, gynécologie et diabétologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades, ainsi qu'au sein des services d'exploration fonctionnelle endocrinienne de l'hôpital Trousseau à Paris. Et vous travaillez en étroite collaboration avec la filière OSCAR. Alors, docteur Besançon, pour débuter notre entretien, quels sont les enjeux du traitement pour les patients atteints du syndrome GACI ?
Bien, le tout premier enjeu, c'est avant tout d'assurer la survie de ces patients pendant la première année de vie, car comme vous l'avez vu précédemment, ils sont très sujets à des atteintes cardiovasculaires sévères liées aux calcifications. Et de ce fait, ils ont une nécessité de suivi cardiologique très serré pendant cette première année de vie. Et puis finalement, on s'aperçoit que passé cette première année de vie, s'il y a une survie, on va juste poursuivre et dépister précocement les complications, mais c'est finalement une maladie qui va s'améliorer au fil du temps.
Et quelle prise en charge est-ce que vous pouvez proposer ?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique de la maladie. De ce fait, on propose une prise en charge multidisciplinaire au cas par cas selon les atteintes du patient. C'est très important de comprendre que cette prise en charge doit être faite dans les centres experts de la filière OSCAR, qui gèrent les maladies osseuses et les maladies du métabolisme phosphocalcique, pour bénéficier d'une expertise au niveau des différents professionnels qui vont prendre en charge ces patients. Donc on a des traitements qui vont cibler principalement le rachitisme hypophosphatémique. Donc là, ce sera sans surprise le phosphore et le 1-alpha et la vitamine D. Il y a également eu des traitements par biphosphonate qui ont été proposés dans la première année de vie, puis plus tard, pour essayer de limiter les calcifications. On ne sait pas exactement si ce traitement est pleinement efficace ou pas, mais étant donné qu'il est bien toléré, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le traitement qui est proposé dans les 6 premiers mois de vie. Et ensuite, progressivement, on voit que les calcifications ont tendance à plutôt diminuer et le phénotype évolue progressivement vers le rachitisme hypophosphatémique. Et de ce fait, par la suite, les biphosphonates n'ont plus nécessairement leur place dans le suivi. Ensuite, il y a des traitements un peu plus spécifiques en fonction des patients, avec notamment la prise en charge de l'hypertension, les traitements anti-épileptiques s'il y a des atteintes cérébrales, et puis des traitements orthopédiques ou cardiologiques autres, en fonction, là encore, des localisations des calcifications.
Alors, une fois cette prise en charge initiée, quel suivi préconisé aux patients ?
Alors le suivi, l'objectif va être donc de dépister précocement toutes les complications et on va s'axer sur les différentes atteintes qu'ils vont développer après la première année de vie avec de façon permanente le rachitisme hypophosphatémique, donc raison pour laquelle ma place d'endocrinologue a une grande importance pour la prise en charge de ce rachitisme pour éviter au maximum les déformations osseuses et les douleurs. Mais il va également s'associer à tout ce rachitisme, une atteinte au niveau ORL avec une surdité qui s'installe progressivement, d'où l'importance d'un suivi avec un audiogramme régulier et des appareillages en fonction de la surdité pour permettre d'avoir une pleine capacité d'apprentissage. Il va également pouvoir s'installer une hypertension artérielle ou une néphrocalcinose en raison des dépôts de calcification au niveau du rein ou des artères rénales. Et donc pour cela, il y aura une prise en charge conjointe par les néphrologues pédiatres et les cardiologues. On va également s'intéresser aux calcifications articulaires qui vont progressivement, là encore, s'installer, qui peuvent induire des limitations de mouvement et des douleurs, et avec, à l'âge adulte, des aspects de pseudarthrose qui seront pris en charge par les rhumatologues adultes. On va également faire attention aux atteintes ophtalmologiques qui peuvent être possibles en raison des calcifications des petites veines rétiniennes. Et on préconise de ce fait un suivi ophtalmo régulier tous les 2 ans au départ, puis plus rapproché en fonction de l'atteinte. Les atteintes de calcification viscérale seront également surveillées, mais sont souvent plus parlantes dans la première année de vie. Et finalement, on s'aperçoit dans notre cohorte que, au fil des années, ces calcifications sont de moins en moins parlantes, notamment sur le plan du foie ou le plan du pancréas. Mais on poursuit le suivi jusqu'à une stabilisation de ces calcifications. Et puis enfin, il y a des anomalies dentaires qui peuvent se manifester au cours de la vie des patients avec une certaine fragilité de la dentine pour lequel on sensibilise les patients et on leur recommande d'avoir un suivi régulier pour éviter les caries et d'autres abcès dentaires qu'on peut également voir dans les rachitismes hypophosphatémiques insuffisamment contrôlés.
Alors le syndrome Gassi est une maladie génétique, docteur Besançon. Quel conseil génétique peut-on apporter ?
Alors effectivement, le Gassi, c'est une maladie autosomique récessive, ce qui signifie que 2 allèles mutés sont nécessaires pour que la maladie se manifeste. Et ça signifie que si les 2 parents sont porteurs sains hétérozygotes, il y a à chaque grossesse du couple un risque de 25% d'avoir un enfant atteint de Gassi et 50% de risque d'avoir un enfant porteur sain d'une des mutations du Gassi. Mais comme l'expression de la maladie peut être extrêmement variable selon les patients, c'est vraiment, à mon sens, essentiel d'avoir une consultation de génétique dans un centre expert pour les grossesses futures.
Et en termes de prospective, et pour conclure notre entretien, docteur Besançon, quelles sont les voies de recherche dans le syndrome Gassi ?
Alors, les recherches ont sensiblement avancé très récemment et il y a eu des essais chez les souris avec une protéine de fusion recombinante qui remplaçait ENPP1, donc la protéine qui est justement manquante dans le syndrome de Gassi. Et en fait, une publication en 2018 très intéressante a montré que quand on injectait cette protéine de fusion recombinante d'ENPP1 couplée avec un fragment FC, eh bien, il n'y avait plus de calcification vasculaire et de prolifération de l'intima à l'intérieur des vaisseaux chez les nouveau-nés nourrissons. Donc ça veut dire que quand on arrive à traiter très précocement ces souris qui devraient développer la maladie, eh bien, on bloque complètement les calcifications de tous les axes vasculaires. Et suite à cette très belle publication, des entreprises pharmaceutiques sont en cours de développement de cette protéine de fusion chez les patients atteints, et donc une version humanisée qui serait peut-être dans les années à venir à proposer chez les patients, évidemment dans les formes très précoces, mais également dans les formes plus tardives pour limiter les différentes atteintes dont j'ai pu parler, notamment le rachitisme, la surdité, l'hypertension et les autres calcifications articulaires.
Eh bien, merci mille fois, docteur Besançon, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie très rare qu'est le syndrome Gassi. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !